Français, français.
Ladies and gentlemen,
c'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends.
La France n'est pas un pays réformable. C'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République.
Voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois ensemble. Je suis Quentin Warlop, je vous accompagne sur la roue de l'élection présidentielle française depuis désormais 5 semaines, 5e numéro de votre podcast Voix de France avec 2 invités, Jean-Baptiste Marteau, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à tous.
Jean-Baptiste, tu es grand reporter pour France Télévisions, présentateur du 20h et journaliste au service politique avec nous aussi en plateau Marc Cirlerot. Salut Marc.
Salut.
Journaliste politique pour la RTBF. On est à 35 jours du premier tour. On ne parle que de politique internationale ou presque. Invasion russe oblige. Mais Emmanuel Macron, Marc, est enfin candidat.
Enfin candidat, bah, il n'avait plus vraiment le choix, il ne pouvait plus attendre. Vous savez qu'il y avait une sorte de date limite imposée par le Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature. C'était pour le 4 mars, vendredi dernier. Bah, il a dû le faire, donc il s'est déclaré, il est sorti du bois à travers une lettre aux Français qui a été publiée dans la presse régionale. Vous savez, une presse très importante en France.
Une candidature au tout dernier moment, et puis vendredi, un épisode de 4 minutes 30 sur YouTube, façon série télévisée. On écoute un extrait.
Magnifique, ça y est, on a un candidat.
Moi j'arrive à cette élection, d'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Ensuite en étant très humble, parce que je sais que rien n'est écrit. Et donc je pense que c'est très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans.
J'ai une dernière question, monsieur le président. Est-ce que dorénavant je peux vous appeler monsieur le candidat?
Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Donc, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
Voilà pour cet extrait sonore. Je précise que c'est une vidéo, Jean-Baptiste, qui a été diffusée sur YouTube par les équipes de campagne du président candidat ou du président candidat, c'est ça?
Exactement. D'ailleurs, c'est le titre de cette série. Ça s'appelle Le Candidat. Il y aura un épisode tous les vendredis diffusé sur la chaîne YouTube de la campagne. Alors, c'est extrêmement bien produit avec de belles images. C'est vraiment tous les codes des séries Netflix et autres qu'on connaît qui sont reprises un petit peu dans cette façon original, nous dit en tout cas l'entourage d'Emmanuel Macron, de parler aux Français. Bon, après, sur le fond, c'était assez drôle parce que c'est là où on voit que la différence entre candidat et président va être un peu difficile à faire pour lui, parce que tout de suite, il s'est fait un peu critiquer parce que cette vidéo a été tournée à l'Élysée, dans son bureau où il travaille quasiment tous les jours, et beaucoup lui ont dit, bah, attendez, non, si vous êtes candidat, vous ne devez pas vous exprimer depuis l'Élysée. Et donc, évidemment, ils nous ont tout de suite dit dans son entourage que le prochain épisode sera tourné ailleurs, peut-être au siège de campagne. Mais en tout cas, c'est une des manières un peu originales que souhaite utiliser Emmanuel Macron pour s'adresser aux Français jusqu'au premier tour.
C'est quoi, c'est un candidat Netflix? C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant?
C'est ça. En tout cas, ils essaient de remettre un petit peu de modernité et de façon un petit peu attrayante de parler aux électeurs dans une campagne qui est jusque-là assez terne, qui est complètement écrasée maintenant par l'actualité internationale après avoir été écrasée par le Covid. Donc, voilà, on tente d'intéresser un petit peu les gens, en sachant que sur le fond, c'est compliqué de le faire. Donc, par la forme, en utilisant des procédés un petit peu nouveaux. Bon, alors Emmanuel Macron, il utilise aussi des choses qui ont déjà été faites. Hein. Jean-Luc Mélenchon aussi, il fait sa petite série depuis déjà plusieurs années sur sa chaîne YouTube. Bon, c'est pas le premier, mais de la part, en tout cas, du président de la République, c'était une forme de communication qu'on connaissait pas trop.
Oui, le storytelling, la manière de raconter est pris en charge par les équipes d'Emmanuel Macron. Marc, Emmanuel Macron qui utilise deux fois le mot humilité, une fois le mot humble, et puis sur la forme, il regarde pas vraiment non plus la caméra.
Non, on a l'impression qu'il va parler de lui à la troisième personne du singulier. Bientôt, le candidat pense que, le candidat dit que, de temps en temps, il dira le président fait que. Je pense qu'il a voulu faire d'une autre manière, mais est-ce que ça touche les gens? Bon, ses partisans trouveront ça génial. C'est moderne, comme vient de le dire Jean-Baptiste. Bah, c'est une autre manière de faire de la com politique. Bah, pour ses détracteurs, ils trouveront ça ringard ou alors sans réponse. Alors, imaginons le français ou la française sans emploi, ou qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat aujourd'hui, qui écoute ça, il le regarde. Alors, il n'a pas de réponse à ces problèmes. Et en plus, dans le même temps, il dit, vous savez, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire là, j'arrête jamais. bah bon, comme un tas de Français, de Françaises qui travaillent au quotidien. On a l'impression qu'il n'y a que lui qui travaille, donc je ne suis pas sûr que ça joue dans un sens ou dans l'autre. Pour ses partisans, c'est génial. Pour ses détracteurs, bah, ça n'apporte aucune réponse à rien. Parce qu'il n'évoque rien. On ne peut pas dire qu'il a, en tout cas, dans ce premier numéro de sa série, il apporte aucune réponse. Il cite rien, il chiffre rien, donc voilà, c'est un peu léger.
Vous avez parlé de ses détracteurs, notamment les autres candidats à la présidentielle. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen, c'était sur France 2, juste après l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron.
Oui, il pouvait difficilement faire autrement, parce que c'était la date limite pour annoncer sa candidature. Donc, par conséquent, ça n'est pas une surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai à répondre à cette lettre que j'ai lue rapidement ? C'est qu'à peu près à chaque ligne, je suis en désaccord avec lui, et que par conséquent, je vais tout faire pour que les 5 prochaines années soient sans lui et avec moi.
Voilà pour Marine Le Pen, très dure avec le président candidat Emmanuel Macron. Jean-Baptiste, juste avant cette vidéo, on parlait de storytelling, de manière de raconter et de se présenter. Juste avant cette vidéo sur les réseaux sociaux, il y a eu une annonce dans la PQR, hein, comme vous l'appelez en France, la presse quotidienne régionale, comme l'avait fait avant lui François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 1995.
Exactement. Alors, Jacques Chirac s'était vraiment déclaré, lui, dans la presse quotidienne régionale, dans La Voix du Nord, par une interview en 1995. François Mitterrand, lui, c'était dans un autre contexte où il avait fait une lettre aux Français alors qu'il était président de la République, pas quand il était candidat. Nicolas Sarkozy également avait utilisé ce procédé. Donc, c'est pas moderne, c'est pas extrêmement original. Et il faut le dire, c'était pas du tout ce qu'avait imaginé Emmanuel Macron et son entourage au départ. Eux, ils voulaient une déclaration plutôt spontanée sur le terrain, à l'occasion plutôt d'un bain de foule, nous dit-on, et puis ensuite de le concrétiser de manière un peu plus solennelle sur un plateau de télévision et sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça a été complètement balayé par la crise ukrainienne, par la guerre en Ukraine, et donc il a fallu un peu en dernière minute, réinventer quelque chose, trouver une manière de rentrer dans cette campagne. Ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est que je discutais avec l'un de ses plus proches collaborateurs il y a maintenant un petit mois de cela, et il nous disait, bon là, on va attendre parce qu'il y a un petit peu de tension sur l'Ukraine, il devrait se déclarer d'ici 2 semaines, mais en fait, ils avaient une fenêtre de tir il y a un mois qui était effectivement parfaite, puisqu'il y avait moins de Covid, il y avait quasiment pas encore de conflit évidemment en Ukraine, juste des tensions qu'on sentait évidemment très fortes. Et puis ils ont préféré attendre, et puis évidemment a éclaté cette guerre, l'envahissement par l'armée russe, et donc là forcément il n'y avait plus de manière de se déclarer normalement. C'est comme le meeting qui était prévu à Marseille, il a déjà été repoussé une première fois d'une semaine, et là maintenant on nous dit qu'il n'y aura pas de meeting à Marseille. Parce que vous imaginez voir 10 000 personnes dans une salle aujourd'hui crier Emmanuel Président avec des fanions et des pancartes, ce serait complètement décalé avec les images qui nous parviennent tous les jours d'Ukraine. Donc il faut improviser, il faut tenter de faire campagne, mais il faut quand même faire campagne, parce qu'il faut que cette campagne, elle existe, avec le risque, qu'on nous dit assez bien dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est que les Français trouvent voilà, ce côté un peu arrogant, que ça y est, il a déjà gagné, qu'il n'y a pas de campagne, que tout est balayé, que la crise ukrainienne doit emporter tout. Non, ça c'est vraiment un risque important, et donc ils le savent dans l'équipe de campagne, il faut quand même qu'il y ait des éléments de campagne, mais que ce soit pas trop arrogant non plus au vu du contexte.
Sachant que il est fidèle, Marc, à son en même temps, hein, il a en même temps fait cette annonce dans la presse quotidienne régionale, en même temps sur les réseaux sociaux. Emmanuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'a également taclé. Je vous propose de l'écouter.
J'ai envie de dire que s'il avait vraiment envie d'écrire une lettre aux Français, j'aurais attendu de sa part une lettre d'excuse pour le bilan et la politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 5 ans, qui s'est traduit par une explosion des richesses, qui s'est traduit par une inaction totale pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Il a fait le choix d'une lettre de candidature. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette lettre, beaucoup de choses par ailleurs assez mensongères sur son bilan, mais il y a des éléments qui m'inquiètent sur l'avenir, sur son programme, et j'espère qu'on va pouvoir en parler.
Et maintenant, on est, Marc, en droit de se poser la question. Il reste un mois, c'est ça, avant le premier tour. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Mais maintenant, il est officiellement en campagne, donc maintenant, il va recevoir des coups. Il va en donner, mais il va en recevoir. Le problème de ses adversaires, c'est jusqu'à présent, ils avaient l'impression qu'ils parlaient dans le vide, puisque Emmanuel Macron disait, enfin, donnait l'impression en tout cas, faites campagne, débattez entre vous, on verra bien ce qui se passera. Et moi, vous savez, moi je travaille, j'ai autre chose à faire, je suis au-dessus de la mêlée. Moi, je suis président. Il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine. Ici, maintenant, il va être confronté notamment à des débats. Donc, il va avoir ses adversaires face à lui qui vont l'attaquer. Bon, sur l'Ukraine, il pourra montrer qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais pour le reste, ils vont pouvoir l'attaquer surtout. Ça va être le début de la campagne à ce niveau-là. Et puis aussi, il aura des rendez-vous avec les journalistes en radio, en TV, en presse écrite. Ça va être différent parce que là aussi, ils vont avoir un autre discours. Ça ne sera plus le président qui est en face d'eux, mais le candidat. Donc maintenant, il va devoir sortir du bois et avoir un vrai programme. Parce que pour l'instant, il parle surtout de son bilan. Dans la lettre aux Français, comme je l'ai dit, il n'y avait pas grand-chose, sauf qu'il a simplement expliqué que les Français allaient devoir travailler plus. Alors beaucoup ont compris que travailler plus, ça voulait dire plus longtemps et qu'il allait remettre sur la table cette réforme des retraites qu'il avait dû mettre de côté à cause notamment du Covid. Donc c'est simplement là-dessus qu'il s'est avancé, mais il va devoir s'avancer, sortir des propositions. Maintenant, il est en campagne, donc à ce niveau-là, tout va changer pour Emmanuel Macron.
Jean-Baptiste, on vient d'entendre Marc qui parlait un peu de ce ring de boxe, hein, finalement, qu'est la présidentielle française, avec des candidats déclarés depuis longtemps qui boxaient dans le vide. Ça y est, maintenant, il y a un adversaire. Il va se faire taper dessus, Emmanuel Macron, on va être clair. Est-ce que c'est pas à lui, avant de répondre au coup, quelque part, d'imposer justement les droites ou les esquives, d'imposer les thèmes de campagne?
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il va falloir qu'il prenne des risques dans cette campagne à Emmanuel Macron. S'il se contente d'être président, d'être le chef de guerre, qui gère effectivement cette guerre en Ukraine et qui a un bilan, ça ne va évidemment pas suffire. Et ils le savent dans son équipe, il ne restera pas à 30% d'intention de vote au premier tour, comme c'est le cas en ce moment. Il va prendre des coups et c'est donc à lui de prendre des risques et d'aller sur le terrain des idées. On nous dit effectivement dans son équipe qu'il a des propositions, comme on dit, disruptives, risquées, révolutionnaires presque. C'est le terme qu'il avait employé dans un livre qu'il avait écrit en 2017, Révolution. Et bien là, c'est effectivement ce Emmanuel Macron-là qui veut le remettre sur la table avec des propositions très innovantes, notamment peut-être sur les institutions. On se rend compte qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'abstention. Il y aura probablement encore un record d'abstention à la présidentielle. Il faut donc, d'une certaine manière, un peu renverser la table. Rester dans cette 5e République qu'on connaît en France depuis 1958, mais peut-être proposer effectivement une proportionnelle pour élire les députés à l'Assemblée nationale, de proposer des changements d'institution un petit peu fortes, et également d'aller sur le thème de l'emploi, sur le thème effectivement les retraites, on comprend bien qu'il va faire vraiment cette réforme, mais sur d'autres thèmes, il va falloir qu'il prenne des risques, parce que sinon effectivement, tous les autres candidats vont faire que le boxer sur son bilan et lui taper évidemment dessus. C'est Emmanuel Macron contre tous les autres, et il en sortira vraiment abîmé. Et c'est pas ce que souhaite l'électeur français. Il souhaite effectivement avoir un choix de proposition, de débat, idée contre idée.
C'est que vous, partout, vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Donc, alors, c'est sûr que les adversaires d'Emmanuel Macron, ils n'attendent que ça maintenant, parce qu'ils voient que leur campagne ne prend pas vraiment, patine depuis plusieurs mois, personne n'arrive vraiment à imposer ses thèmes dans la campagne, donc tout le monde attend cette confrontation, mais il va falloir maintenant qu'Emmanuel Macron se jette dans le bain. Premier déplacement ce lundi, dans une forme de grand débat face à des Français en région parisienne à Poissy. Bon, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. S'il se contente effectivement d'aller parler à quelques dizaines de Français choisis par la mairie qui vont lui poser des questions, ce ne sera pas suffisant pour avoir un vrai débat démocratique dans cette présidentielle. Il le sait, Emmanuel Macron, il faudra clairement qu'il prenne des risques.
D'autant que, pour l'instant, c'est lui qui s'est chaque fois présenté aux Français dans les discours. Ici, dans cette vidéo, c'est lui qui décide de parler. Marc, Il y a personne pour le contredire.
Mais non, et vous vous souvenez de ses dernières interventions télévisées, les interviews, il était passé, je pense, il y a quelques semaines sur TF1 et LCI, notamment, où là, bon, son interview était bien gentille. Alors, souvenez-vous, il avait dit, oui, j'ai commis des erreurs, j'ai appris dans ma manière de communiquer, d'être, j'ai appris beaucoup de choses depuis 2017.
Vous avez un regret ?
J'ai essayé de bien faire à chaque instant. Ai-je fait des erreurs ? Oui. Beaucoup. Est-ce que je les ai répétés ? J'ai essayé de ne pas les répéter. Je crois que c'est le plus important.
Sur le contenu, il n'y avait pas des masses de choses. Et c'est vrai qu'il va sans doute aussi être attendu sur un point important, c'est le pouvoir d'achat des Français. C'est une des premières priorités, préoccupations des Français aujourd'hui. Et là-dessus, quand vous voyez la hausse des produits pétroliers, la hausse du gaz, de l'électricité, toutes ces factures, c'est le cas un peu partout en Europe et notamment en France. Là, il va devoir répondre à ces gens. Rappelez-vous, les plus grosses difficultés finalement qu'il y a eu sous quinquennat, j'enlève le Covid et j'enlève l'Ukraine, ce sont quand même les gilets jaunes. L'esprit gilet jaune, il est peut-être toujours là. Alors, pour qui vont-ils voter? On est dit partagé entre Jean-Luc Mélenchon et, sur l'extrême droite, Le Pen et Zemmour. Est-ce que ces gens-là, il va aller les rechercher? Il faut qu'il aille les rechercher. C'est peut-être aussi un de ses défis pour les semaines qui viennent, c'est d'aller rechercher ces gens-là en disant « Allez, on va pas prendre du De Gaulle, mais je vous ai compris. Je vous ai enfin compris. »
Manu, tu m'aimes mal, tu m'aimes trop. Manu, tu m'aimes pas comme il faut depuis longtemps. Manu, je les aime plus. Tes défauts.
Jean-Baptiste, on le dit depuis le début de ce podcast, depuis plusieurs semaines, on avait parlé de hold-up en 2017 de la part du candidat et président Macron. Est-ce qu'ici, quelque part, la situation dramatique en Ukraine ne sert pas Emmanuel Macron ?
Si, bien sûr, effectivement, l'effet drapeau, comme on peut l'appeler, ça peut aider, effectivement. Sachant que dans une sorte de crise aussi forte que celle qu'on connaît actuellement, beaucoup de Français n'ont pas envie de partir à l'aventure et préféreront toujours effectivement un responsable, un président de la République qui a l'expérience, qui peut-être faire prendre moins de risques effectivement qu'un autre candidat effectivement dans une zone, dans une période plus calme. Mais malgré tout, Emmanuel Macron, il y a effectivement ce risque d'apparaître uniquement comme le chef de guerre et uniquement comme la personne rassurante. Mais ça ne va évidemment pas suffire pour créer un programme. Et il y a un risque, c'est d'être élu, mais d'être mal élu. Je reviens sur cette idée de hold-up, vous parliez en 2017. Emmanuel Macron, beaucoup lui avaient reproché effectivement d'avoir été élu par un petit socle au premier tour. Mais c'est déjà le cas d'abord de Nicolas Sarkozy, surtout de Jacques Chirac, qui avait été élu par à peine 20% des électeurs, donc c'est-à-dire 15% de l'ensemble des Français inscrits sur les listes électorales si on enlève l'abstention. Le risque d'un président mal élu, c'est que derrière la moindre crise que vous allez, notamment une crise sociale comme on a connu avec les Gilets jaunes, eh bien ça se retourne contre lui, ça devient une crise institutionnelle. Donc la crainte vraiment, je le sens beaucoup dans son équipe ces derniers temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai débat démocratique et qu'il soit élu par quand même un socle très large dès le premier tour, si possible plus de 30%, pour pouvoir avoir cette légitimité derrière qui lui permettra de faire face à des crises qui de toute façon arriveront dans les 5 prochaines années. Est-ce que ce serait une crise sociale, économique? Effectivement, vous parliez de l'énergie, Marc, c'est un gros risque. Et effectivement, on sait que l'énergie va continuer d'augmenter, que se chauffer, se déplacer va coûter de plus en plus cher. Donc il va falloir avoir des réponses là-dessus. Et un président mal élu n'aura pas la légitimité suffisante pour pouvoir affronter ces crises.
Tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste. L'inquiétude, à mon avis, chez Emmanuel Macron aujourd'hui, elle est sans doute clairement là. Alors, imaginons, il puisse être élu avec 55 ou 60% au second tour. Bon, il avait fait 66% la dernière fois. Si cette fois-ci, il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen et qu'il en fait 55, on dira, il a quand même perdu 11% sur 5 ans. Donc, pour Emmanuel Macron, ça c'est important. Il y aura les législatives après. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de troisième tour. Jean-Baptiste ne dira pas le contraire. On dit souvent, attention, il y a parfois un troisième tour qui peut être social notamment, ça peut être l'inquiétude d'Emmanuel Macron. Donc il a 35 jours, c'est vrai, c'est court, il est bien parti pour gagner, mais il doit faire attention pour la suite. Donc ici, on a l'impression que sa victoire, elle est acquise quasiment, mais c'est après que ça va être compliqué, et rappelons qu'il y aura quand même les législatives au mois de juin, où là aussi, en plus, il y aura un laps de temps d'un mois et demi, c'est très rare qu'il y ait autant de temps entre la fin de la présidentielle et les législatives, un mois et demi, donc il faudra aller vite, prendre des mesures rapides, pour aller chercher notamment tout cet électorat un peu inquiet et déçu d'une part, mais inquiet depuis 5 ans, disant mais en termes de pouvoir d'achat, ça ne va pas pour nous et ça risque de s'aggraver.
Et un dernier point, Marc, si je peux me permettre, pardon, c'est que le risque également, au-delà de être mal élu, c'est que face à un deuxième tour hypothétique face à Marine Le Pen, le risque c'est qu'une partie de la gauche qui se sent complètement hors du jeu. Les électeurs de gauche qui considèrent que ça y est, c'est fait, il va être élu, il va être réélu face à Marine Le Pen, eh bien n'aille pas se déplacer. Imaginez que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon du premier tour ne se déplace pas au second tour, que l'électeur de Valérie Pécresse, candidate de droite, vote en partie pour Marine Le Pen et l'autre partie aille s'abstenir. Eh bien Emmanuel Macron, il pourrait au mieux être réélu, mais avec un très faible pourcentage au second tour, donc faible, et on ne sait jamais, voir Marine Le Pen élue d'un cheveu, parce qu'effectivement, l'électorat de gauche, de droite, centriste, qui ne vote pas Emmanuel Macron, enfin, ne se sera pas déplacé au second tour, parce qu'il considère que la victoire est acquise. C'est un risque.
Et l'inquiétude, justement, de voir cette victoire comme si elle était acquise, avec peut-être une démobilisation possible, même dans son camp, en disant « Est-ce qu'on doit vraiment aller voter ? Bon, c'est pas grave, Emmanuel Macron va gagner. » Ça aussi, c'est un autre risque qui pourrait se rajouter.
Donc c'est l'abstention, Jean-Baptiste, qui pourrait être le principal adversaire d'Emmanuel Macron ?
Bien sûr, toutes les études le montrent aujourd'hui, on va peut-être, probablement même, battre un nouveau record d'abstention pour l'élection présidentielle. Jusque-là, c'était plutôt les élections locales, régionales, départementales qui avaient de très forts taux d'abstention, les européennes parfois. Mais l'élection présidentielle, c'était l'élection phare pour laquelle les électeurs se déplaçaient. Il y avait toujours une forte mobilisation. Là, ça ne semble plus le cas. Et cette campagne complètement atypique qui n'arrive pas vraiment à démarrer, qui n'intéresse pas de la même manière, avec des forces de gauche extrêmement affaiblies, avec une candidate de droite qui est à la peine depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien, le risque, c'est effectivement de se retrouver avec une très forte abstention et donc, effectivement, un président délégitimé, pas aussi fort qu'il devrait l'être démocratiquement et surtout avec tout un tas de risques possibles. Et vous parliez des législatives, Marc, c'est effectivement un gros risque. Un mois et demi après, il n'est pas du tout sûr que même si Emmanuel Macron devait être réélu, qu'il se retrouve avec 300 députés à l'Assemblée nationale comme c'est le cas aujourd'hui. Et alors là, tout est possible. Vous pouvez vous retrouver avec des majorités un peu composites où il faut faire des alliances avec tel ou tel parti. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude en France. Ça nous ferait peut-être un peu de bien de pouvoir arriver à avoir plus de discussions démocratiques entre partis, mais en tout cas, ça nous plonge dans une incertitude qu'on ne connaissait pas jusque-là sous la Ve République.
Le président Macron qui veut être bien réélu, on l'a bien entendu. Jean-Baptiste, Emmanuel Macron, il a une triple casquette désormais, président de la France, il assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne,